France Inter.
Aujourd'hui dans l'affaire sensible, gloire et chute de l'Empire Boussac. Il est mort ruiné et on a un peu oublié son nom. Mais Marcel Boussac fut l'un des hommes les plus fortunés du monde et pendant des décennies le plus riche de France. Entre les deux guerres, il développe un empire du textile au rayonnement international, s'octroyant le titre de « roi du coton ». Un royaume industriel à sa démesure, avec ses châteaux, ses chasses somptueuses et ses écuries, ainsi que des dizaines de milliers d'ouvriers qu'on dit « emboussaqués », oui, de leur naissance jusqu'à leur mort. Mais au tournant des années 60, Boussac se montre incapable de s'adapter au bouleversement du monde moderne et son empire s'effondre. Pour limiter la casse, les présidents Giscard et Mitterrand vont accorder une foi aveugle au monde des affaires qui rôde pour mettre la main sur les joyaux de la couronne à la tête desquels la maison de haute couture Dior. Notre invité aujourd'hui, Olivier Petitjean, journaliste, cofondateur de l'Observatoire des multinationales. Il a dirigé avec Yvan Duroy la rédaction du livre « Multinationales, une histoire du monde contemporain », ouvrage publié cette année aux éditions La Découverte. Affaires sensibles, une émission de France Inter, récit documentaire Bastien Jans, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Donnante, réalisation David Leprince.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles sur France Inter.
Février 1957. Les étendues immenses du Haras, du Fresnel et du Phare en Normandie sont plongées dans la brume. La Rolls-Royce de M. Marcel s'engouffre à toute vitesse dans l'allée principale. Quand l'homme de 68 ans, chapeau feutré, regard d'acier, descend de son bolide, un silence de mort règne parmi ses employés. Une procession solennelle accompagne l'illustre homme d'affaires vers l'intérieur des boxes, où il trouvera la dépouille de Faris. Il se trouve que le crack des années 30 et le plus fécond des étalons de son écurie est mort ce matin. Ce cheval de 20 ans est à l'origine de 256 victoires et de plus de 300 millions de francs amassés. Il était la pièce maîtresse de la glorieuse écurie Boussac, la casaque orange à la toque grise. Que se raconte Marcel Boussac, lui qui n'a pas eu d'enfant et qui le regrette? Que se raconte-t-il en contemplant ce regard mort qui était aussi celui d'un compagnon? Perçoit-il le signe que l'heure a peut-être sonné, que la chance menace de tourner? Ou se remémore-t-il sa vie de succès?
Mais Caracalla repart, il gagne. Ça y est, il a gagné. À Caracalla, numéro 1 du programme, le Grand Prix de Paris 1945, et à son propriétaire, M. Marcel Boussac, les 1200 000 francs du vainqueur.
Dans la dernière ligne droite, Double Rose, Coronation et Amour Drac sont en paquet, mais Poincelet, le jockey de Marcel Boussac, détache nettement Coronation, qui dans un style extraordinaire dépose littéralement ses concurrents les plus dangereux et remporte brillamment cette course suivie par le monde entier. Triomphant, Poincelet et Coronation ramènent à Marcel Boussac le prix de leur victoire, 25 millions.
Pour le grand public, avant les années 50, Marcel Boussac est surtout un prince du turf, dont l'écurie rafle tout dans les hippodromes. C'est une figure d'homme puissant, mais discret, qui traîne comme d'autres sa légende dorée, sa légende noire. Côté pile, c'est l'histoire de ce petit gars de Châteauroux, débarqué dans les années 1910 pour faire fortune à Paris dans la confection. Ce jouvenceau qui ose mettre de la couleur dans les robes bon marché, le voilà riche. Durant la Grande Guerre, il approvisionne les poilus en coton et en masques à gaz. Dans les années 20, il parvient à transformer tout le stock de toile utilisé pour les ailes d'avion en produits de mode bon marché. Adieu les chemises de nuit, Boussac démocratise le pyjama. Son magasin à la toile d'avion fait fureur dans le Paris des années folles. Enfin et surtout, il fonde le comptoir de l'industrie cotonnière, maison mère de son empire qui compte. Usines, plantations et filatures aux quatre coins de l'Empire français. La bonne fortune de ce talentueux Marcel Boussac apparaît méritée. Lui, le bon patron qui revitalise toutes les usines textiles dans les Vosges. Lui qui n'a pas rechigné à augmenter les salaires pendant le Front populaire. Lui, enfin, qui a assuré les revenus de tous ses employés, même les prisonniers de guerre, durant la Seconde Guerre mondiale. Mais d'autres, bien sûr, portent un regard plus critique sur l'édification de cette fortune inouïe. Et cela dès la fin des années 10. La presse de gauche fustige alors ce planqué profiteur de 14-18 qui s'est offert, en 1919, le somptueux château de Mivoisin, près d'Orléans. Le journal L'Humanité, qui dresse son portrait en 1926, voit en lui un requin de la pire espèce, un tyran qui tue à la tâche des ouvriers asservis et sous-payés, un capitaliste frauduleux qui a trusté toute l'industrie du coton et dont les moyens sales pour parvenir à ses fins sont couverts par tous ses amis politiques. De Clémenceau à Léon Blum, Boussac Albralon.
Il a drainé dans ses caisses plus de 100 millions de fortunes. Il a un appartement à 800 000 francs, 3 autos Rolls-Royce, 5 millions de francs de meubles anciens, une kyrielle de domestiques, toute une basse-cour de poules de luxe et dans ses usines, des bataillons de mouchards pour espionner et pressurer le matériel humain. Que des socialistes comme Léon Blum puissent pousser l'ignominie jusqu'à considérer comme un acte professionnel tout à fait normal le fait de prendre la défense de ce capitaliste d'une aussi basse crapulerie et d'une férocité aussi implacable, voilà qui déroute l'imagination.
C'est vrai que Boussac a le chic pour soigner son entre-gens et profiter des désastres, comme la crise de 1929, durant laquelle il rachète une soixantaine d'usines. Mais pendant la Seconde Guerre mondiale, et même pendant la Seconde Guerre mondiale, il tient d'un côté la main de ses ouvriers, tout en contractant de l'autre des accords avec les services de Vichy et même les nazis. Il trouve le moyen de s'enrichir encore, de s'accaparer de nouvelles usines, et personne ne lui reprochera. À la Libération, il est à la tête d'un véritable empire du textile. 40 000 employés, dont 2/3 de femmes couturières, réparties dans des dizaines de villes ouvrières où elles naissent, se logent, se soignent, s'amusent, vieillissent et meurent en bout cassé. Le paternalisme de M. Boussac, fleurbon le 19e siècle, une pseudo-politique sociale pour fidéliser. Logement pas cher, vacances pour les enfants, jusqu'au service funéraire, mais en échange d'une mainmise absolue sur le destin de ses employés. Ceux-ci s'en souviennent. Dans le documentaire, on l'appelait Monsieur Marcel, d'Olivier Bess.
Je ne veux pas parler de social. Ça faisait partie de la gestion de Marcel Boussac. À savoir que Marcel Boussac avait besoin de main-d'œuvre. Il fallait que la main-d'œuvre soit fixée. Il fallait que la main-d'œuvre soit obéissante aussi. Il fallait que la main-d'œuvre soit dominée par le maire, qui était généralement un personnage de Marcel Boussac, et par le curé, qui était aussi un personnage de Marcel Boussac. Il n'y avait pas de conquête sociale. C'était l'octroi de Marcel Boussac pour que ses ouvriers lui soient fidèles.
Comment voulez-vous que les gens en veuillent à Marcel Boussac? Mais non. Parce que ils savent qu'ils ont tout. On naissait Boussac, on buvait Boussac, on mourait Boussac.
C'est, je dirais, des relations féodales.
On est parti très vite dans ta voie avec le numéro 6, Pachikou, qui tente de trouver un montage.
En 1947, au lendemain d'un nouveau triomphe de la Casaque Orange au prix du Jockey Club, le journal L'Humanité, toujours, n'oublie pas d'épingler le richissime mania du textile. À quoi vont-ils servir les 3 millions du prix du Jockey Club? À améliorer la race chevaline ou le sort de ses ouvrières, écrit le quotidien communiste. Ni l'un ni l'autre, en vérité. Boussac le boutiquier, méprisé encore par une part de la haute bourgeoisie, veut pénétrer le monde du luxe et investir dans la haute couture. Là encore, le flair ou la chance le mène à rencontrer un petit homme chauve et rondillard, habile dessinateur, mais qui n'a encore jamais exercé comme grand couturier. Et Boussac ne tremble pas au moment d'investir 60 millions de francs qui permettent à l'inconnu d'ouvrir sa propre maison de haute couture, un certain Christian Dior.
À quoi pourrait-elle penser au seuil d'une nouvelle saison, sinon aux parures qu'elles porteront bientôt? Et il suffit parfois de si peu de choses pour rappeler le rêve. Une page d'album, un miroir, et l'illusion naît du désir en bamboche, robe d'après-midi cerise, en faille froncée à la taille, aux manches volumineuses, créée par Christian Dior. C'est étrange comme le simple fait d'allumer une cigarette peut aider parfois à l'évasion. L'évasion vers les fêtes de l'hiver, vers cette pavane aux teintes très douces de satin gris perle, brodée de fils d'argent, de brillants et de perles, dont Christian Dior a fixé la longueur à 15 cm du sol.
Boussac ne veut pas seulement produire quelques robes de luxe pour les ultra-riches. Il profite de sa force de production pour inonder le marché de parfums et d'accessoires signés Christian Dior, le génial créateur du New Look. C'est le début d'un mariage de raison entre la haute couture et l'industrie du prêt-à-porter. Le succès de Dior donne une visibilité internationale et ouvre grand l'appétit de Marcel Boussac. Il se lance dans la publicité, rachète des enseignes de grande consommation, investit dans la presse, s'octroyant Paris Turf, évidemment, mais surtout le quotidien grand tirage, l'Aurore. Sa puissance médiatique lui permet des coups de génie, comme lorsqu'il pousse le magazine Elle à mettre Brigitte Bardot à la une, accoutrée d'une robe Vichy, remettant ainsi au goût du jour un tissu produit évidemment dans ses usines vosgiennes.
Voici la robe de Vichy dont vous rêvez. Il ne faut que 3 mètres de tissu en 1 mètre de large pour la réaliser.
Au milieu des années 50, Boussac est au fait de sa gloire. Le magazine américain Fortune l'a érigé dans un long portrait comme le modèle européen de l'homme d'affaires, révélant un trésor à hauteur de 60 milliards de francs, sixième fortune du monde. Chaque week-end que compte l'année, dans son immense domaine de Nivoisin, est organisée une grande chasse où se presse la petite cour républicaine et capitaliste. Ministres, préfets, publicitaires et banquiers s'y précipitent. Après avoir chassé le faisan, tous se goinfrent de foie gras et de caviar à la table de Fanny Boussac, la belle cantatrice dont Marcel est tombé fou amoureux voilà 15 ans. Et quand tout ce beau monde a fini de lui manger dans la main, le couple rejoint ses appartements de Neuilly. 600 mètres carrés où il a aménagé une petite salle à manger discrète, desservie par un monte-charge qui les éloigne de la centaine d'employés qui travaillent pour eux. Monsieur et Madame Boussac dînent simplement, en écoutant à la radio les bruissements du monde qui change. Et Monsieur Peste, l'état dépensier, la décolonisation, l'ouverture d'un marché commun. En bon patron paternaliste et protectionniste, Boussac est contre tout ça. Et il s'en ouvre régulièrement dans la chronique de Monsieur Dupont, qu'il rédige lui-même dans les pages de l'Aurore, patron précurseur jusque dans l'envie d'influencer l'opinion. Mais nous voilà revenus à cette maudite année 1957. En octobre, quelques mois après la mort de l'étalon Faris, une nouvelle disparition inattendue survient.
La haute couture est en deuil. La porte s'est fermée sur la maison et sur l'appartement du premier couturier de Paris. Christian Dior est mort, terrassé en Italie par une crise cardiaque. Ramené chez lui, il a reçu l'hommage silencieux de ceux pour qui son nom était devenu la marque de l'inimitable.
Cette fois, Marcel Boussac devrait en être certain. Il est temps pour lui d'apprendre à perdre. Mais son empire est si vaste, si puissant, que se maintient encore un temps l'illusion de sa prospérité. Et l'homme a encore un peu de flair. À la tête de la maison Dior, il nomme un jeune homme de 21 ans, dont la toute première collection est un nouveau succès. Sauf que ce jeune couturier, effronté, refuse de faire son service militaire en Algérie. Défenseur convaincu de l'Algérie française, Boussac le licencie en 1960. Ce jeune talent, c'est Yves Saint-Laurent. Et c'est pas dire que M. Marcel n'est pas en phase avec les nouvelles générations. Et ce ne sont pas les dîners à la Maison Blanche et les visites de la reine Elisabeth II dans ses haras qui vont l'aider à être lucide. Pas plus d'ailleurs que cette invitation inédite de Nikita Khrouchtchev à venir le rencontrer au Kremlin. À son retour, Boussac confie à l'ORTF ses impressions sur le dirigeant soviétique. Il est assez cocasse que ce roi français du capitalisme fasse l'éloge d'un dirigeant communiste.
Qui est M. Khrouchtchev ? Je me posais moi-même cette question le 1er septembre dernier dans l'avion qui me conduisait à Moscou pour y rencontrer sur son invitation M. Khrouchtchev. Quelques mots de bienvenue et la conversation s'engage aussitôt. Très rapidement, je constate que M. Khrouchtchev est un exceptionnel débatteur. Notre conversation porte sur l'ensemble de la situation internationale actuelle et à venir. Monsieur Khrouchtchev sait que le monde évolue avec une extrême rapidité.
Oh oui, le monde a changé. Et Marcel Boussac l'apprend à ses dépens. À son retour de Moscou, il ne reçoit aucun appel de l'Élysée. Il voudrait pourtant faire part de ses impressions, président de Gaulle, de puissant à puissant. Mais le général le méprise et le remet à sa place. Il n'a que faire des opinions géopolitiques de M. Boussac, qu'il retourne à cette issue. Dans la France de la Ve République, M. Marcel n'a plus son rond de serviette chez les puissants.
Il portait un feutre topé, il parlait par un homme, il buvait des cafés frappés avec des pâtes. Il était très dégingandé, il fumait des camels parfumés, il marchait à pas combiné, boulevard Raspail. Il suivait des inconnus chaque soir le long des rues pour leur dire l'air ingénu. Il portait un feutre topé, il parlait par un homme topé, il buvait des cafés frappés avec des pâtes. Il était très dégingandé, il fumait des camels parfumés, il marchait à pas combiné, boulevard Raspail. Il suivait une inconnue, lui parlait d'un air ému. En voici ce que j'ai retenu. Elle était très intéressée, se laissa très très vite inviter à prendre un bon café frappé avec des pailles. Elle lui plaisait fortement, quand elle parlait il n'osait plus faire un mouvement. Elle riait de son étonnement, mais se laissa courtiser car justement, eh bien mais, elle aimait son feutre topé, son parler par un homme à topé et aussi les cafés frappés avec des pailles. Elle était blonde platinée, elle était fortement parfumée et prenait un air détaché, un air canaille. Quand il lui disait chérie, vous êtes la femme de ma vie, même, même il ajoutait ces mots gentils. Plus tard ils se sont mariés, cela fit un ménage cinglé qui se balade à pas combiné, boulevard Raspail. Il faut les voir dans un café, sur le comptoir, buvant frappé, des cafés frappés avec des pains.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, gloire et misère de l'Empire Boussac.
Marcel Boussac, c'était ses ouvriers et la famille.
C'est une forme de paternalisme, une forme d'asservissement du salarié. Mais on peut dire que c'est un paternalisme à visage humain.
C'est un musicien du textile pour moi. C'est une partition, une harmonie entre les fils.
On se disait, voilà, on ne travaille pas pour n'importe qui, quoi. On travaille pour Monsieur Marcel.
Et Monsieur Marcel. Le nom qu'il disait, c'était Monsieur Marcel.
Affaires Sensibles. Fabrice Drouel.
Quand commence-t-elle, au juste, la chute d'un empire ? Pour le groupe Boussac, le point de bascule pourrait se situer au début de l'année 62, le jour où le directeur du Crédit Lyonnais ose venir rencontrer le magnat dans ses bureaux. Face au regard mauvais du roi du coton, le banquier demande une garantie personnelle de Marcel Boussac pour tout nouvel emprunt de son groupe. Comprendre, la banque ne croit plus dans le modèle de développement du vieux Briscard. La décolonisation a fermé les marchés autrefois protégés. Le libre-échange a ouvert la concurrence. Boussac n'est plus compétitif. La banque veut donc des restructurations, des licenciements, une modernisation de l'équipement. Bref, elle veut que Boussac embrasse le néo-capitalisme libéral. Bien. Mais comment changer un homme de 73 ans qui a toujours tout réussi et tout contrôlé, qui réunit son conseil une fois par an dans son propre salon, n'écoutant pas le moindre conseil avisé, pas plus qu'il ne saurait lire un tableau statistique ou la moindre prise de notes. Boussac a toujours gouverné au pifomètre. Il ne croit qu'à son flair et son autorité naturelle, multipliant les visites dans ses usines, dont il contrôle la bonne tenue, allant jusqu'à serrer les boulons quand il faut et invitant à produire, produire et produire encore, pour faire grossir son stock, son trésor de guerre. Et peu importe si ses tissus ne trouvent plus preneur, que le coût d'entretien de ses stocks ruine le groupe, il ne licenciera pas de personnel. Parole de paternaliste, et il n'hésite pas à renflouer les caisses du groupe lui-même en vendant ses biens personnels. Boussac n'abandonne pas le navire, il coulera avec lui si nécessaire. En 1966, à 77 ans, il reprend sa tournée de ses usines vosgiennes. Un employé témoigne de ce moment dans le documentaire, on l'appelait Monsieur Marcel.
En 1966, moi j'étais donc jeune arpète et on a su que Marcel Boussac venait. Ouais, ça a été émouvant. Moi j'ai vu des contremaîtres qui avaient le cuir épais. On ne leur refaisait pas, quoi. Ils ont pleuré. Parce qu'ils savaient que pour eux, c'était la dernière fois que Marcel Boussac venait dans les Vosges, venait de son entreprise. C'est un moment fort qu'il y a eu. Dans toutes les entreprises, c'est un moment fort.
Bon, pleurer le patron, c'est une chose. Mais souffrir sa lente agonie en est une autre. C'est clair, le plus dur est à venir pour les dizaines de milliers d'employés de Boussac à travers la France, pris dans le déclin inéluctable du groupe et au-delà de toute l'industrie du textile français. Dans le Nord et dans l'Est, les métiers à tisser s'enrayent, les usines ferment. Pompidou, Giscard, les présidents se succèdent sans réelle volonté de sauver l'industrie du textile en France. Mieux vaut accepter les délocalisations, mieux vaut laisser entrer les produits venus d'Asie et concentrer ses efforts sur d'autres secteurs à la peine, ceux qui périclitent dans le vacarme assourdissant de la grande mythologie ouvrière. Les gueules noires, les cols bleus, ça disparaît en grognant, en cognant. Les couturières, elles, ne disent mot, ou presque, éclipsées. Chez Boussac, la grève, ce n'est pas vraiment dans les habitudes. Et pourtant, la menace est précise. Le vieux patron, 80 ans, désormais veuf, ne passe toujours pas la main. Se croyant toujours riche comme Crésus, il dilapide ses biens pour maintenir le groupe à flot. Et il refuse tous les petits chefs sortis des meilleures écoles de la République que banquiers et ministres tentent de lui imposer. Non, Boussac préfère installer sur le trône son neveu, Jean-Claude, dont on peut douter raisonnablement des capacités. Celui-ci s'engage enfin dans un plan de restructuration en 1975, ce qui ne fait qu'accélérer les pertes du groupe, qui deviennent exponentielles. 50 millions en 76, le double en 77, le double encore pour l'année suivante, et ainsi de suite. De toute façon, autour de cette carcasse moribonde, les financiers rôdent, depuis un bout de temps déjà. Depuis des années, les frères Villot frappent à la porte du château de Mivoisin avec une offre insolente pour acheter l'intégralité du groupe Boussac. Alors il faut se figurer ces Dalton du textile, comme on les appelle. Quatre frères, aux manières rustres que la France découvre au début des années 70.
Tacada, tacada, voilà les Dalton, tacada, tacada, voilà les Dalton.
Vous avez quel âge? 46 ans.
46, oui, c'est ça.
Monsieur Régis, vous êtes le second. Bonjour. Monsieur Jean-Pierre, vous êtes le second.
Second, j'ai 41 ans.
Monsieur Antoine.
J'ai 39 ans.
36 ans.
36 ans. Votre chiffre d'affaires cette année?
Le chiffre d'affaires du groupe cette année sera de l'ordre de 220 millions anciens.
220 milliards.
220 milliards, monsieur.
220 milliards. Et il y a 15 ans, c'était de quel ordre?
Il y a 15 ans, c'était de l'ordre d'un milliard et demi, Jean-Pierre.
Un
petit milliard et demi, oui.
Un petit milliard et demi, disons.
À quel rang se situe aujourd'hui votre groupe?
Parmi toutes les industries, environ 30e rang, et plus spécialement dans l'industrie textile, le rang, vous le connaissez, donc le premier.
Ceux-là viennent de Roubaix et sévissent dans le milieu depuis déjà 20 ans avec une méthode de vautour. Il rachète toutes les petites filatures familiales à l'agonie. Les désosse, vend des actifs et aspire la trésorerie pour nourrir leur propre capital en avalant toujours plus gros. Les Dalton du textile ont déjà mis la main sur les établissements Algache, Le Bon Marché, les usines Descamps, le détaillant Conforama ou encore la société Saint-Frère. leurs finances ne sont pas au mieux. Mais fait de la reprise et prestigieux groupe Boussac leur obsession. Si M. Marcel ne cesse de repousser leur avance, ils savent qu'ils n'ont qu'à tenir en attendant patiemment que la bête meure. Printemps 1978, l'heure a sonné. Enfin, pas tout à fait. Alors que la campagne pour les législatives bat son plein et que la gauche est sur le point de les gagner, Giscard veut à tout prix éviter une crise sociale supplémentaire. Alors, le pouvoir force la main aux banques pour qu'elles maintiennent en vie Boussac, et une fois les élections passées et la droite maintenue au pouvoir, on lâchera les fauves. Fin mai, le vieux patron est contraint de déposer le bilan. C'est la cessation de paiement. L'avenir de groupe se joue à présent dans les couloirs du pouvoir et non plus dans le salon de Marcel. L'affaire Boussac fait la une des JT.
Des machines modernisées trop tard, une politique commerciale qui n'a pas su s'adapter, une gestion financière unanimement condamnée, c'est cela l'affaire Boussac. Elle se traduit par un chiffre massu. Chaque mois, le groupe textile perd 1 milliard de centimes. Une situation impossible qui ne se maintient qu'à coup d'expédients. Et pour les 4000 ouvriers et employés de Boussac dans cette vallée des Vosges, c'est un choc brutal. Malgré les avertissements qui se succédaient depuis 8 ans, on se refusait à croire qu'un jour, un tel empire industriel puisse s'effondrer.
J'espère que ça va s'arranger, non, quand même. Hein. C'est qu'il y a des vieux, mais il y a des jeunes. Hein.
Vous pensez que c'était possible que ça arrive un jour?
Non, jamais.
Dès lors, la grande braderie des biens Boussac est lancée. Robert Hersant, dont on vous a raconté l'histoire il y a quelques jours, rachète tout le port médiatique. L'Aga Khan, lui, concurrent de toujours dans les hippodromes, peut mettre la main sur les haras et les précieux chevaux de course. Mais pour toute l'activité textile, pourtant pas au mieux, le combat va être des plus âpres. Il met aux prises deux loups du secteur qui cherchent à se tailler la part du lion. Les frères Villot, donc, et le flamboyant Maurice Biderman. Alors lui a commencé comme un petit grossiste, du sentier, avec pour école les méthodes sulfureuses attachées à ce quartier de Paris, tout dévoué au prêt-à-porter. Mais Biderman est surtout un redoutable affairiste, qui est parvenu, en 15 ans, à constituer un groupe extrêmement ambitieux qui rayonne à l'international. Main dans la main avec Pierre Berger, il a développé la marque de costumes pour hommes Yves Saint-Laurent, qui a pignon sur rue à New York. Pour l'outsider du sentier, comme pour les Dalton de Roubaix, la reprise de l'emblématique groupe Boussac reviendrait à s'asseoir de plein droit sur le trône du roi du coton. Mi-août, la bataille entre Villot et Biderman fait rage et anime les JT.
Il y a quelques semaines à peine, nous apprenions que le groupe Boussac était à bout de souffle. Tous les spécialistes appelés au chevet du moribond se déclaraient impuissants et ils en étaient tous réduits à dresser le constat de décès. C'était la mort de l'Empire Boussac. Et aujourd'hui pourtant, le tribunal de commerce de Paris est bien embarrassé pour choisir entre les candidats à la reprise de Boussac. D'un côté les frères Villot, de l'autre Maurice Biderman. Et durant le week-end du 15 août, il n'y a pas eu de trêve dans cette bataille qui semble aujourd'hui tourner à l'avantage de M. Biderman, dont le jeu vient de s'enrichir de deux atouts. D'une part, les cadres des usines Boussac se sont prononcés pour Maurice Biderman, qui leur inspire davantage confiance en matière de sécurité d'emploi. Et d'autre part, Marcel Boussac lui-même appuie la démarche des cadres de son entreprise. Je donne, a-t-il dit, mon adhésion sans réserve à la solution proposée par M. Biderman.
Oui, mais les pouvoirs publics en décideront autrement. Contre toute attente, en effet, le plan de reprise des frères Villot, pourtant eux-mêmes au bord de la faillite, est retenu. En fait, ce sont les banques qui ont poussé la roue. Elles font confiance à ces Villot qui ont promis de rembourser les 350 millions de créances du groupe Boussac en priorité. Elles proposent même à l'État d'avancer l'argent nécessaire aux quatre frères pour racheter le groupe plutôt que de recourir à un prêt d'argent public. Le ministre de l'économie René Monory, qui se veut champion du libéralisme, est convaincu. L'affaire est entendue pour 700 millions de francs à la suite d'une série d'irrégularités qui seront toutes couvertes par les pouvoirs publics. Marcel Boussac ne veut pas signer le moindre document actant cette cession au groupe Villot, qu'à cela ne tienne. On l'évince des tours de table et on se permet de falsifier sa griffe. Mais surtout, la valeur des actifs du groupe est très largement minorée par un jeu savant d'écriture comptable qui permet d'accélérer la liquidation judiciaire des biens et de débouter Jean-Claude Boussac, qui lui s'agite en vain dans les cours de justice pour empêcher l'irrémédiable. En quelques mois, et avec le soutien de l'État, les quatre de Roubaix avalent tout cru le roi du coton. Celui-ci, quasi ruiné, ne quitte plus son château qu'on lui a gracieusement laissé. Si ce n'est pour sillonner une dernière fois les champs de course, dans un pathétique baroud d'honneur télévisé où on lui remet le cheval d'or. Tendez l'oreille.
Monsieur Boussac, que représente pour vous cette récompense ? Pour vous, qu'est-ce que ça représente, cette récompense ? Est-ce que c'est quelque chose de très important pour vous de recevoir ce cheval ?
Monsieur Boussac, qui m'a reçu cette semaine, m'a expliqué que cette victoire représentait peut-être beaucoup plus que toutes les victoires prestigieuses qu'il a remportées à travers l'Europe, parce que elle venait dans un moment difficile.
La voix d'une extrême faiblesse, émue, le regard embué par les larmes, au moment où son empire s'écroule, Marcel Boussac, à 90 ans, ne s'avoue pas vaincu.
Mais Marcel Boussac meurt le 21 mars 1980. Il n'aura pas vécu assez longtemps pour voir les frères Villot sombrer. Mais assez pour les voir tout vendre, jusqu'au dernier meuble de sa collection, et engloutir définitivement son empire du textile. La gourmandise des Villot est sans limite. Mais cette fois, c'est l'indigestion. D'autant que Jean-Pierre s'est piqué d'acheter une prestigieuse marque de supermarché discount canadienne, Corvette. Or, c'est un gouffre dans lequel sombre l'ensemble de l'empire Villot. En 3 ans après le rachat de Boussac, les frères ont multiplié leurs dettes par 4. Les banques sont les premières à les lâcher. En juillet 81, c'est la faillite, la plus grosse jamais enregistrée dans l'industrie française. 11 milliards de chiffre d'affaires et 32 000 emplois en jeu. À la tribune de l'Assemblée nationale, le ministre de l'Industrie socialiste Pierre Dreyfus n'y va pas de main morte. « Il faut faire rendre gorge aux Villot », s'écrie-t-il. Bref, les Dalton sont recherchés. Un grand classique.
L'inculpation d'un des 4 frères Villot, Jean-Pierre, le personnage peut-être le plus puissant du groupe, témoigne de la volonté du gouvernement de régler rapidement les 2 aspects de cette affaire. Premier aspect, en effet, judiciaire. Cette inculpation peut être interprétée comme le début de la fin d'une dynastie contestée pour ses méthodes industrielles. Second aspect, celui-ci économique, avec le plan de redressement proposé par les pouvoirs publics pour l'une des principales entreprises des frères Villot, le groupe Boussac-Saint-Frères. Les biens personnels de la famille ont été gagés et l'État a injecté 100 millions de francs pour assurer la survie de l'entreprise.
Les Villot empêchés de nuire, le gouvernement de Pierre Mauroy se retrouve avec le monstre Boussac et ses dizaines de milliers d'emplois sur les bras. Mais cette fois, les socialistes ne comptent pas refiler le bébé au premier capitaliste venu. Le vieil empire de Marcel Boussac, devenu par le jeu des acquisitions Boussac-Saint-Frères-Villot-Algache, est mis en gestion par les administrateurs de l'État et perfusé de fonds publics. On confie le paquebot à René Mayer, un ingénieur des ponts et chaussées, un géomètre. Allez savoir pourquoi. En tout cas, celui-ci dégraisse, licencie et essaye de maintenir un temps à flot ce qui ne flotte plus du tout. Pendant 3 ans, plus d'1 milliard de francs du Trésor public sont dépensés dans cette opération.
Conformément à l'article 8 de la Constitution, le Premier ministre, M. Pierre Mauroy, a présenté au Président de la République la démission de son gouvernement.
Le temps passe, les promesses de 1981 ont vécu, place à l'austérité. En 84, Pierre Mauroy est remplacé par Laurent Fabius et il devient grand temps de rendre Boussac au monde du privé. Dans l'univers des affaires, ils sont encore nombreux à lorgner sur les extraordinaires actifs du groupe. Le joyau Dior avant tout. Bien sûr, chacun doit confectionner un plan de redressement pour les quelques 17 000 ouvriers restants. Sur la grille de départ, Georges Bilerman, revanchard comme jamais, le grand groupe Prouveau ou encore Bernard Tapie, le showman des affaires qui ne cesse de monter et rêve de faire un gros coup. Mais un inconnu les coiffe tous au poteau. Un petit promoteur immobilier de Roubaix qui a repris l'affaire de son père. Un polytechnicien avide de succès qui se voit bien quitter les chantiers de construction pour le monde du luxe. S'attachant à l'amitié des frères Villot, il obtient leur signature. Ceux-ci lui vendent ses actions, actant par là même leur retrait définitif de l'affaire. Le jeune promoteur séduit également les banquiers prestigieux de chez Lazare avant de faire ses plus belles promesses au pouvoir public. « Oui, bien sûr, je sauverai le maximum d'emplois », dit-il. Les socialistes apprécient sa figure élégante, cultivée. Oh, ça change du style ronflant des roublards du textile. Et à la fin, François Mitterrand himself lui concède l'ensemble du groupe Boussac pour une bouchée de pain. 400 millions de francs, quand Dior, à lui seul, est estimé à 800. C'est le casse du siècle pour celui qui deviendra bientôt l'homme du plus riche du pays et au-delà. J'ai nommé, bien sûr, Bernard Arnault.
L'homme qui se rend maître de cet empire industriel est un jeune homme de 35 ans, Bernard Arnault, PDG du groupe immobilier Ferré-Savinel, une affaire créée par son grand-père à Roubaix. Il s'est engagé à ramener les effectifs du groupe Boussac de 15 000 à 12 000 personnes sans licenciement.
Les frères Villot ne seront plus dirigeants du groupe, comme je l'ai dit, ni du groupe, ni des filiales.
Oui, mais ce groupe, est-ce que vous pensez que c'est une bonne affaire industrielle malgré ses déboires ?
Alors, ce groupe comporte des pans industriels qui sont difficiles, comme le textile, mais qui peuvent être redressés, et d'autres qui sont des ensembles industriels modernes et aux perspectives intéressantes.
Quand le nom de Bernard Arnault est sorti du chapeau, nombreux dans les médias y ont vu une nouvelle émanation, voire un pantin des frères Villot. Mais c'est bien le fantôme de Marcel Boussac qu'il fallait contempler à travers la frêle silhouette de l'homme d'affaires. Autrement dit, le flair, la poigne et l'ambition vorace du roi du coton. Aujourd'hui, la chute de l'Empire Boussac, on en parle avec notre invité Olivier Petitjean. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, cofondateur de l'Observatoire des multinationales et vous avez dirigé avec Yvan Duroy l'ouvrage « Multinational, une histoire du monde contemporain » publié cette année aux éditions La Découverte. Je le conseille vraiment aux auditeurs, aux auditrices, parce que c'est une somme, 860 pages, c'est un vrai livre d'histoire qui raconte l'histoire de notre pays et du monde à travers les entreprises. C'est formidable.
Merci d'abord. Effectivement, c'est un livre ambitieux, donc c'est un livre collectif, donc on l'a dirigé avec Yvan Duroy, mais il y a une soixantaine d'auteurs. Et la gageure, c'est d'être à la fois une fresque historique, effectivement, qui raconte l'histoire de ces entreprises, dont quelques-unes sont oubliées, mais dont beaucoup font partie de notre quotidien, qu'on côtoie tous les jours. Et à la fois, le côté un peu positif, voir le génie, une certaine forme de génie d'entrepreneur, le rôle qu'ils ont joué, dont on n'est pas toujours conscient dans notre histoire, non seulement économique, mais politique et culturelle, mais aussi avec une dimension plus critique de montrer voilà, la fâche cachée de l'histoire de certains de ces groupes que, évidemment, les chefs d'entreprise eux-mêmes n'aiment pas trop raconter. Donc, on tient les deux bouts. Et donc, c'est un livre qu'on espère à la fois très attractif, plaisant à lire, mais aussi un livre critique qui nous pourrait aider à réfléchir sur le poids de ces grandes entreprises dans le monde d'aujourd'hui.
Dont certaines un peu oubliées, c'est le cas de Boussac. Quand on dit Boussac, on sait que c'est un empire industriel, on n'en sait pas forcément plus, contrairement, je sais pas, à Wendel, Schneider, Renault, Rothschild. Boussac apparaît à part comme n'appartenant pas au sérail. Quoi, il n'a pas été pris au sérieux par le monde des affaires?
Je pense qu'il y a deux aspects. Effectivement, il y a certaines entreprises, il y a des entreprises qui sont parfois très puissantes, qui meurent au cours de l'histoire, qui disparaissent. Et des fois par leur simple mort économique, et des fois parce qu'effectivement on n'a pas essayé de les sauver, on n'a pas voulu les sauver. Et je pense que la mémoire de Boussac est en partie gommée par le fait que voilà, l'essentiel, les joyaux de la couronne ont été repris par Bernard Arnault et donc le groupe qui est aujourd'hui le groupe LVMH. En un sens, on pourrait argumenter qu'il y a une continuité forte et qu'en un sens LVMH est une réincarnation de Boussac, mais du coup ça nuit à la mémoire de ce groupe qui effectivement était malgré ce que vous avez raconté, les liens avec les politiques, etc., était moins lié aux hautes sphères de l'État, telles qu'ont pu l'être d'autres groupes industriels français.
Oui, mais lié quand même.
Mais tout à fait.
Bon, c'est rassurant. Comment expliquer son succès? Il y a du génie entrepreneurial ou peut-être a-t-il bénéficié de circonstances favorables?
Mais évidemment, c'est toujours une combinaison des deux.
Oui.
Je pense que Il a bénéficié clairement, vous l'avez rappelé, de la situation de l'Empire colonial français, qui était à la fois une source de coton. Une des originalités du groupe Boussac, c'est qu'il sourçait lui-même son coton dans ses plantations à lui, au Niger et dans d'autres pays de l'Empire français. Et donc effectivement, quand il y a eu des colonisations, même s'il a maintenu certains actifs,
c'est une tuile.
Et d'autre part, c'était un débouché, et on sait que au-delà de l'approvisionnement en matières premières pour l'économie française, les colonies ont s'est servi de débouchés un peu obligés. Et malheureusement, c'est un peu le cas encore des territoires d'outre-mer aujourd'hui pour les grands groupes français. Et donc, il avait un peu une clientèle captive. Et donc, c'était les deux bouts qui faisaient tenir son empire, d'une certaine manière, qui sont tombés d'un seul coup dans les années 60. Donc, mais de ce point de vue, son modèle a fonctionné pendant très longtemps. Et il a été précurseur sur d'autres points, et sur ces points-là aussi, d'une certaine manière, c'est quand même l'ancêtre du groupe LVMH. D'abord, vous en avez parlé au lendemain de la Première Guerre mondiale, dans sa démarche de démocratiser le luxe, qui reste aujourd'hui d'une certaine manière...
C'est une rupture, ça, quand même.
Voilà, c'était une rupture. Ah oui. Il a innové, il ne faut pas le nier, mais ça reste d'une certaine manière le modèle d'affaires de LVMH aujourd'hui, cette idée qu'il y a ce luxe qu'on appelle aspirationnel, même si... tout le monde, très peu de monde pourront se payer les robes de haute couture. Il y aura toute la partie, le reste des affaires qui sont les vraies sources du profit du groupe, où beaucoup plus de classe moyenne supérieure peuvent prétendre à s'acheter un sac Vuitton ou autre. Et il a aussi innové un autre moment clé, c'est effectivement son partenariat avec Christian Dior à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, où il a non seulement eu le flair d'embaucher Christian Dior, mais aussi l'imagination de développer toute une gamme de produits dérivés. Là encore, c'est un des fondements de ce que sont les empires du luxe aujourd'hui.
France Inter. Affaire sensible. Fabrice Drouel.
Olivier Petitjean, au-delà du cas Boussac, comment on peut définir ce qu'est l'entreprise paternaliste ? Ça veut dire quoi exactement ?
Donc c'est un modèle d'entreprise où effectivement où le patron s'identifie à son entreprise qu'il a créée et où il a une politique de gestion sociale qui a des côtés positifs au sens où il veut fidéliser ses ouvriers, y compris leur famille, donc il va leur offrir des logements, certaines facilités pour les enfants, l'école, les loisirs, des conditions parfois favorables pour les achats dans des épiceries de l'entreprise, etc. Mais la contrepartie de ça, dans la quasi-totalité des cas, quoiqu'à des degrés divers, c'est le contrôle des ouvriers. Donc c'est notamment beaucoup de ces patrons paternalistes, donc c'est une tradition qui date du 19e siècle et dont Boussac, d'une certaine manière, c'est un des derniers avatars de cette longue tradition. Il a quand même un pied dans le 19e siècle, même si, et un pied dans le futur à la fois. Ils sont souvent foncièrement anti-syndicats, anti-communistes évidemment, et donc la contrepartie de cette politique plutôt favorable, c'est que les ouvriers obéissent, qu'ils restent fidèles à l'entreprise.
Est-ce que Michelin, par exemple, fait partie de cette culture-là ?
Tout à fait. D'ailleurs, quand on va à Clermont-Ferrand, on en voit encore les traces. C'était effectivement la contrepartie, c'est qu'il y avait de l'emploi local, les entreprises étaient fidèles, donc elles apportaient beaucoup de choses. Elles offraient aussi parfois des opportunités d'ascension sociale. Ça, c'est très important, que des enfants d'ouvriers puissent se dire devenir cadre, aller trouver des postes à l'étranger. Ça existe beaucoup moins, malheureusement, aujourd'hui. Donc effectivement, ça faisait partie d'une sorte de contrat social qu'il y avait entre ces entreprises, qui exigeait beaucoup, qui voulait pas de contestation, mais qui en échange offrait quand même des choses. Et malheureusement, un des problèmes avec la désindustrialisation en France et les délocalisations, c'est qu'elles offrent beaucoup moins aujourd'hui en échange. Et beaucoup des villes ou des villes pas forcément grandes mais moyennes où ces entreprises étaient implantées ont souffert en prix de plein fouet la désindustrialisation.
Il y en a plus maintenant des entreprises paternalistes en France.
Sur le modèle à l'ancienne, non, parce que les mœurs ont quand même changé. Les salariés, bon, à part peut-être les cadres supérieurs qui sont impliqués vraiment à 100% dans la vie de leur entreprise, les salariés n'accepteraient plus de telles conditions. Mais il y a quand même heureusement des entreprises qui ont le souci de créer de l'emploi en France et d'apporter des conditions favorables à leurs salariés, notamment quand elles ont besoin de salariés qui ont des compétences très spécifiques et pas faciles à reproduire, à trouver. Et c'est le cas en partie dans le secteur textile. Donc dans le groupe LVMH, il y a quand même, et dans d'autres groupes de luxe comme le groupe Hermès aujourd'hui, ça reste parmi les secteurs, donc c'est pas des quantités massives d'emplois malheureusement pour l'état de l'économie française, mais où ils créent de l'emploi qualifié et en région, donc dans les Vosges encore, y compris là où était implanté Boussac, etc. Donc ça reste évidemment pas à l'échelle de naguère, mais bon, ça reste des entreprises qui créent de l'emploi et qui peuvent avoir le souci de fidéliser de cette manière la main d'œuvre.
Alors, ce qui est frappant dans cette histoire, en termes de résonance, et nous sommes toujours intéressés par les résonances, c'est que Boussac, l'affaire Boussac, semble jouer avant l'heure le refrain de l'impuissance de l'État, de nos social-démocraties, de nos États sociaux face au monde néolibéral.
Tout à fait. Ce qui est intéressant, c'est que dans les années 70, donc, il y a plusieurs secteurs industriels traditionnels qui sont en crise. Vous en avez parlé, la sidérurgie, le charbon et le textile. Et effectivement, il y a eu une sorte de disproportion entre d'un côté le charbon et la sidérurgie, où l'État a mis plus d'argent et dont les grandes fortunes ont été d'une certaine manière sauvées, parce qu'on a les frères, la famille Wendel qui a pu se débarrasser de la sidérurgie tout en gardant sa fortune, en investissant ailleurs, alors que l'État a quand même plutôt laissé Boussac mourir. Mmh. Et les raisons pour ça, effectivement, vous l'avez très bien dit, les traditions syndicales, il y avait des hommes d'un côté, des femmes de l'autre, ça a clairement joué un rôle. Et c'est aussi que dès ces années 70, je pense, il y avait cette, notamment à l'époque de Giscard, avec beaucoup de jeunes loups qui étaient jeunes à l'époque et qui sont encore, pour certains, comme Alain Minc dans les débats publics aujourd'hui, cette idée qu'il y avait certaines industries dont on avait moins besoin, donc c'était pas grave de se séparer du textile, parce qu'on pourrait toujours acheter du textile pas cher.
Funeste erreur.
Voilà. Alors qu'il fallait investir beaucoup sur les nouvelles technologies, etc.
Le tertiaire, quoi, voilà. Globalement.
Et donc cette idée, effectivement, qui a continué à faire des ravages dans les années 80, 90 et jusqu'à aujourd'hui, voilà, c'est le début de cette idée-là qu'on a vu dans l'Empire, avec la chute de l'Empire Boussac, alors qu'il y a d'autres pays, y compris en Europe, qui ont été beaucoup plus prudents et qui ont réussi à maintenir une certaine capacité productive sur place. Et aujourd'hui, le fait que le secteur français soit décimé, textile français, pardon, a été décimé à ce point. Un des contre-coups qu'on voit, c'est les controverses actuelles sur Chine, donc sur l'enseigne chinoise, en disant Chine arrive, et le secteur textile français qui essayait de se reconstruire petit à petit n'a pas la capacité à répondre. Bah, c'est quand même, d'une certaine manière, cette incapacité, cette impuissance face à des géants un peu mondiaux qui arrivent à casser les coups, qui ont des machines de guerre publicitaires énormes, c'est quand même une des conséquences de décisions prises dans les années 70 et 80, à mon sens.
Alors, une autre époque, celle du général de Gaulle, c'est quand même formidable qu'ils disent à Boussac, écoutez, vous c'est les affaires, moi c'est la géopolitique. Chacun son truc. Ça c'est quand même formidable que le pouvoir politique s'impose devant le pouvoir économique en disant chacun son truc.
C'est formidable, mais malheureusement cet exemple montre que c'est quand même rare dans notre histoire. Donc je pense que le général de Gaulle c'était un des seuls qui adopter clairement cette posture. Il y a eu des périodes de relations très étroites entre les milieux d'affaires et les dirigeants sous la Troisième République, sous la Quatrième République et ensuite sous la Cinquième République. Mais effectivement, ça montre que les recettes, une partie des recettes de Marcel Boussac à l'époque, qui était sa proximité avec les pouvoirs publics, qui lui permettait d'avoir des commandes publiques, de bénéficier du plan Marshall à la libération, etc., etc., a fini par tomber.
Alors, le monde du textile semble toujours générer des personnages hauts en couleur, hein, aux allures de gangsters, les frères Vilo. Hein, on dit les Dalton du textile, bon, peut-être un petit peu exagéré, mais il y a un truc comme ça. Qu'est-ce qui explique que l'industrie du textile ait toujours ce petit parfum sulfureux?
Là, on parle quand même d'une période qui est la période où justement l'industrie était en crise. Donc, ces périodes de crise, c'est aussi des périodes favorables pour justement les hommes d'affaires moins scrupuleux ou ceux qui sont prêts à utiliser la manière forte pour se débarrasser d'employés ou d'actifs dont ils n'ont pas besoin. Donc je dirais que c'est un mélange entre des traditions industrielles, avec cette idée que des hommes d'affaires peuvent s'enrichir, comme Marcel Boussac est un exemple typique, par leur génie, par leur flair, par leur connexion d'une certaine manière avec l'esprit du temps, les demandes des consommateurs. Donc ça, c'est le côté plus positif, et le côté plus négatif qui est cette période de crise qui malheureusement où les hommes d'affaires un peu scrupuleux ont un peu libre cours.
Et dans ce tableau des potentiels repreneurs de l'Empire Boussac, la figure de Bernard Arnault semble trancher. Ça a été sa force d'avoir l'air plus sérieux que les autres, plus rationnel?
Clairement, il apportait un élément de modernité, de sérieux. Il avait des connexions, malgré tout, même si il avait à l'époque une affaire familiale à Roubaix. Il avait passé un temps à New York après 1980, etc. Donc il avait les connexions, les soutiens. Et voilà, il avait cette modernité, sans doute le flair de se dire, je suis prêt à passer par là pour acquérir Christian Dior, qui a vraiment été la pierre de fondation de son empire LVMH. Quelques années plus tard, ça lui a permis de racheter justement Louis Vuitton et Moët Hennessy, et ensuite, petit à petit, de constituer l'Empire qui fait de lui un des hommes les plus riches du monde.
Merci Olivier Petitjean. Merci. Et je rappelle ce livre multinational, une histoire du monde contemporain. Alors c'est très bien pour Affaires Sensibles, figurez-vous, parce que dans ces pages-là, d'ailleurs, des sujets qui traînent. Qu'on pourrait...
Ah, je vous y invite. Oui.
Bon, bah, à bientôt alors. Vous connaissez le chemin maintenant.
Très bien.
Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Gloire et Chute de l'Empire Boussac. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Ludovic Asselot.